C'est la deuxième heure de ce 1148e Sweet Home Chicago, au cours de laquelle on aura l'interview de Fred Mahé, qui nous parlera de son groupe Devil's Bottle, mais avec qui également on illustrera cette interview par des extraits musicaux Johnny Hooker, Bill Durham, Devil's Bottle bien sûr, mais également Jeff Healey, Stevie Ray Vaughan, Albert King, Johnny Winter, Lucky Peterson et Kristen Kingfish Ingram.
You know my baby, where I must live this never hurt. There's nothing left to do here. Take the road and go away. There's no more work, there's no one to talk. The coffee shut down. Take the road and go away. Maybe one day we'll let this place. Maybe one day we'll change our lives. And I hope to leave this evil town. From the street, smells of frying. The backing of the dogs. Take the road and go away. Maybe one day we'll leave this place. Maybe one day.
Fred Mahé, bonjour Fred.
Salut.
Comment ça va?
Bah plutôt bien.
Bienvenue à Radio 666.
Merci.
C'est pas la toute première fois que tu interviens dans ce micro, je crois. C'est...
Non, je suis venu il y a pas longtemps pour la sortie d'un album avec un autre groupe, Sounds of Anarchy. Voilà.
Et ça, c'était dans le cadre d'une autre émission qui s'appelle Punks Not Dead. Et
oui, c'est ça, avec Richard.
Qu'on salue également. Salut Richard. Et là, aujourd'hui, dans Sweet Home Chicago, eh bien, c'est pour évoquer ton parcours musical, ton parcours artistique et puis aussi ton actualité, l'une de tes actualités avec un groupe qui s'appelle Devil's Bottle. On va en parler tout à l'heure.
Oui, oui.
Et Fred, est-ce que tu peux nous dire quels sont les artistes qui t'ont influencé, qui t'ont mis le pied à l'étrier pour te dire j'ai envie de devenir guitariste finalement?
Oh, il y en a eu plein. C'est vrai qu'il y a eu Stevie Ray. Bon, c'est un incontournable. Hein. Tous les mecs de mon époque, ils sont passés par Stevie Ray. Il y en a eu d'autres, hein. C'est vrai que Johnny Winter, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Il y a Jeff Healey, guitariste aveugle qui joue avec la guitare à plat sur ses genoux. Baby King, Albert King, Albert Collins. Enfin, je vais pas te faire la liste, mais il y a tous ces guitaristes-là.
Ah, c'est une liste très éloquente et effectivement, des artistes qui ont marqué leur époque et qui sont tous disparus, tiens, bizarrement.
Oui.
Ah, donc ça fait déjà pas tout à fait 15 jours, 3 semaines que tu joues, que tu tournes. Tes débuts musicaux, tes débuts en tant que guitariste, c'est quoi? C'est la fin des années 80, début 90?
Oui, c'est ça. Alors, bon, il y a toujours une guitare à la maison. Mon père fait de la guitare et du banjo. Il était plutôt musique américaine, Doc Watson et ces trucs, tous ces, voilà, la musique du film Délivrance, tu vois, si ça peut te cibler un petit peu ce style-là. Et moi, j'ai fait mes premiers accords à 14 ans, quoi. Et puis, à 16 ans, j'ai dit, bon, il faudrait que ça aille plus vite. J'ai pris des cours avec un mec qui s'appelait Gilles Delay. Mmh. J'ai pris 2 ans de cours avec lui et puis après j'ai bossé un peu tout seul parce que voilà. Et j'ai pris quelques cours avec Didier Cantegrit,
oui.
qui très vite m'a proposé de venir faire le bœuf et puis après de faire partie de son groupe. Et en fait, ma vie de musicien a commencé à l'âge de 19 ans, quoi. Voilà.
Et donc, voilà, juste avant, pendant les années lycée, il y avait déjà eu des petits bandes où tu étais vraiment tout seul dans ta cave ou dans ta chambre à faire tes gammes.
Beaucoup d'heures dans la chambre, oui. Ouais. Ça, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à travailler. Et puis, avec mon prof, là, il avait monté quelques petits groupes. Voilà, donc à 17 ans, j'ai dû faire ma première scène, dos au public.
Ah ouais.
Ah ouais, oh, c'était nul à chier, mais c'est pas grave. Ça fait des bons souvenirs.
Ça n'a pas été filmé, j'imagine.
Non, il y a eu des photos. Voilà, ça fait, voilà. Ouais, ouais. Et puis avec Borderline, après, ouais, à partir de 19 ans, c'était parti, quoi, parce que j'ai passé mes examens et puis on est parti en tournée dès l'été pour faire je sais plus combien de dates, mais pendant 2 ans avec Borderline, on a vraiment bien tourné.
Voilà, ce groupe Borderline qui effectivement avait le vent en poupe, on va dire, fin des années 80, début des années 90.
Oui, ici, début 90, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
Et il y a un souvenir avec ce groupe que tu partages avec tous les amateurs de blues de la région qui se souviennent, non pas de l'inauguration, mais de la toute première grosse soirée blues qu'il y a eu au Zénith de Caen, c'était
ouais.
en 93.
En 93, ouais.
Une soirée incroyable, ouais. Raconte-nous un peu, tu as vécu ça de l'intérieur.
Ah bah oui, j'avais 22 ans et puis on s'est retrouvés aux balances et dans les loges avec les Blues Brothers.
Les vrais.
Ouais, Paul Persson, Bernard Allison, Patrick Verbeek. Et c'était un émerveillement, quoi. Voilà, c'était super de partager ça. Ça m'a mis le vent en poupe, quoi.
Et alors, quand tu dis dans les loges, ça veut dire que vous avez pu communiquer, t'as pu discuter avec ces gens-là, les croiser
Ah oui, parce que si tu connais un peu le Zénith, tu sais, c'était les loges à l'étage. Et
d'accord.
En fait, tous les groupes avaient laissé la porte ouverte.
Ah, voilà.
Et donc, Bernard Allison est rentré dans notre loge. Il a pris ma guitare, on a joué un petit peu, etc. Il y avait Lou Marie au sax derrière, enfin bon, c'était incroyable, quoi. C'était assez incroyable, un rêve, vraiment.
Je me souviens plus s'il y avait Dan Aykroyd. Non, il y avait d'autres chanteurs.
Non, non, c'était d'autres chanteurs. Mmh. Ouais, c'était une autre équipe hein, qui parcourait toute l'Europe, là. Ouais. Ouais.
Et par contre, tu l'as dit, Loulou Marini au sax, Matt Guitar Murphy
oui.
À la guitare,
ouais, ouais.
Voilà, tous ceux qui étaient dans le film de l'époque, de John Landis en 1980. Ça aussi, c'est un truc qui t'a marqué particulièrement
Ce film, ouais. beaucoup. Et il y a une partie dans le film où on voit John Lee Hooker qui joue Boom Boom dans la rue, là.
C'est
et,
ça,
wow,
à
ça,
Maxwell
c'est,
Street.
C'est super, ça sonne, c'est formidable, quoi.
Ça, c'est juste avant que les Blues Brothers entrent dans la taverne tenue par Aretha Franklin et Matt Guitar Murphy.
Oui, oui.
Et ça, le fait d'avoir vu Matt, justement, qui fait partie du film, enfin, qui est non seulement musicien, mais acteur principal,
oui, bien sûr,
le fait
ouais.
d'avoir joué avant lui, ça, à 21, 22 ans, comme ça, ça t'a. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Je sais pas, c'était un rêve, j'étais complètement sur une autre planète, voilà. J'étais porté sur un nuage, c'était génial.
Et quelques jours après, tu t'es retrouvé dans une toute petite scène.
Et on a repris le fil de nos concerts de la région, quoi, voilà. Donc, petite scène, et voilà, devant des gens qui ne nous connaissaient pas, qui ne nous écoutaient pas, et voilà. Donc, la réalité revient très vite.
Ouais, l'humilité du musicien peut revenir très très vite, effectivement, dans ce cas-là. C'était quoi ton rôle, guitariste rythmique, solo?
Ouais, rythmique, ouais. Uniquement rythmique, à la dure. C'était avec Didier, c'était à la dure. Mais c'était quelque part, je ne regrette pas, parce que j'ai appris le métier, quoi. Donc, rythmique et petit à petit j'ai eu le droit de prendre un chorus en son clair.
En son clair.
Et voilà, et petit à petit après j'ai fait un petit peu plus de solo, j'ai changé le son, etc. Puis il y a un moment où on s'est séparés parce qu'on voilà, on se marchait un peu dessus, quoi.
Ouais, et donc ça veut dire qu'après tu as fondé ton propre groupe ou tu as rejoint d'autres musiciens?
Ah non, après j'ai rejoint d'autres musiciens.
Jean-Pierre Auvray déjà à l'époque
Jean-Pierre Auvray, c'est une super histoire. C'était mon CE quand j'étais à Lisieux, à Cornu. Voilà, ah. Et on a commencé à se rencontrer comme ça. Mais il y a eu toute la série avec Danny Fischer.
Oui.
Voilà, où on a quand même pas mal écumé les concerts aussi, où on a fait un album en français d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait la rencontre de deux musiciens américains, deux frangins, John et Mike Langley, qui sont restés en France quelques années et avec qui j'ai beaucoup appris le chant notamment, parce que je chantais très peu avant. Et ils m'ont mis en confiance et c'était plutôt assez sympa, ils m'ont fait découvrir plein de choses et j'ai bien avancé avec ces mecs-là.
Et alors ça, c'est l'école de la scène, pas seulement l'école de la musique. Est-ce que tu fais partie des musiciens qui savent lire la musique, la transcrire ?
Non, non, non.
T'as jamais handicapé dans tes projets ?
Non, non, ça ne m'handicape pas. Non, non, bah, pour le blues, c'est pas gênant plus que ça. Mmh. C'est plus l'émotion, l'âme. Voilà. Après, j'ai joué dans d'autres groupes où, effectivement, si j'avais su lire, j'aurais gagné du temps. Quoi, effectivement. C'est un gain de temps. Effectivement, savoir lire, ça va plus vite que écouter à l'oreille et retranscrire avec les tablatures, des trucs comme ça. Quoi.
Mais, Alors maintenant, avec toute cette expérience, tu peux nous parler des autres musiciens avec qui tu t'es produit. On était arrêté dans les années 90, finalement, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis les 20 dernières années, on va dire?
Oh, il y a eu plein de petits groupes, hein. Il y a des groupes contenus, d'autres qui n'ont pas tenu. Il y avait un groupe sympa qui s'appelait Armadillo, qui a duré quelques années.
Avec Olivier Join.
Avec Olivier Join, ouais, qui était passé au Zénith, d'ailleurs, et fait la première partie d'une des nuits du blues. Je ne me souviens plus laquelle.
Je me souviens d'un passage à l'Espace Puzzle, qui était assez réussi.
À l'Espace Puzzle, ouais.
Très belle acoustique.
C'était très sympa, ouais. Oui. Ouais, c'était un groupe super. Et puis ça s'est arrêté, on devait enregistrer, ça n'a pas fonctionné, bon... Voilà, bon, ça fait partie des fins de vie de groupe, comme il peut y en avoir beaucoup. Mais...
Donc, cette expérience avec Armadillo, et puis ensuite, est-ce que tu as créé ton blues band, ou country band, ou rock band ou,
non, 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 je ne me suis toujours pas lancé à faire un truc tout seul. J'avais fait ça après Danny Fischer, avec les anciens, avec Fabrice Lafontaine et Karim Hassani, on avait monté un petit trio. Je m'étais mis au chant, et j'avais commencé à composer. On avait enregistré dans la cave, mais rien de concluant, mais c'était une première expérience au chant pour moi. Et le chant, c'est venu assez tard. Hein. J'ai vraiment eu... J'ai mis du temps à m'y mettre, quoi.
Alors, t'as vu, il n'y a pas si longtemps, au Evrecy Blues Club.
Oui.
Hein, et là, Jacques Picard de l'Asso Backstage, qui organise la nuit du blues à Caen, qui te connaissait forcément.
Oui.
Parce qu'il t'avait programmé avec Armadillo, notamment. Il s'est dit... On va les faire jouer, quoi. C'était quel genre d'expérience, cette scène-là?
Ah, c'était sympa. Alors, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait avec Jean-Pierre. Auvray, on l'avait déjà fait il y a très longtemps à l'Espace Puzzle.
En formule duo.
Alors, on avait pris à Puzzle un contrebassiste et puis un batteur.
C'était acoustique trip ou acoustique chic, je ne sais plus.
Acoustique trip.
Trip,
ouais. Voilà. Et donc, on a agrémenté un petit peu notre duo, plutôt ciblé années 70, voilà.
Ouais. Avec des reprises des Stones, des choses comme ça.
Avec des reprises des Stones, ouais, ouais, ouais.
Et puis ensuite, ce deuxième concert à Evrecy, alors, je ne sais plus, c'était quoi, il y a 2-3 ans
Oui, c'est ça. Donc, on avait monté un petit set, un peu plus blues, du coup.
Ouais.
Et pour changer, j'avais fait venir mon pote Dominique Washburn, qui est un excellent joueur de Washburn. C'est la planche à laver américaine qui se joue avec des dés et on frotte la plaque et ça donne une sonorité très très Louisiane, quoi. Et puis Fabrice Lafontaine, un des fidèles bassistes qui joue avec moi depuis très longtemps
et avec qui tu continues à te produire.
Oui, on a des groupes ensemble avec Fabrice, ouais, on continue.
Avant d'évoquer le groupe Devil's Bottles dont on va écouter un extrait tout à l'heure, on peut parler à nouveau de tes influences puis écouter quelques extraits de ce que tu nous as apporté. Je commencerai bien par le français Bill de Rem, ce titre en particulier qui s'appelle Sur ma chaîne bon marché. Pourquoi ce titre, Fred?
Oh, ça me rappelle une des périodes de ma vie, effectivement. Voilà, il parle d'un dimanche après-midi où il pleut, il a plus de cigarettes, il tourne en rond, etc. Sa vie de musicien, c'est compliqué. Voilà. Et ça, c'est pour tous les icos, je pense que ça évoque
ça parle,
quelque chose, ça parle. Ouais.
Bill de Rem.
Sur ma chaîne bon marché, j'ai mis de la musique, quelque chose. Ce que j'ai rêvé, un vieux blues électrique. Bien sûr, dehors une vase et les gouttes de pluie sur les carreaux s'écrasent tout en faisant un sale bruit. Je ne suis pas un poète. Oh, je ne serai jamais Baudelaire, même en creusant la terre. La pluie sur les carreaux inspire les voix artistes. Moi, ça fait ni froid ni chaud.
On va entendre Bill Durham sur ma chaîne Bon Marché pour illustrer un petit peu ton amour également pour les musiciens qui s'expriment en français. On évoquait Paul Persson qui fait partie de bah, peut-être des guitaristes que tu aimes bien. De ce
ah, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. C'est un super guitariste et pour l'avoir rencontré, avoir discuté un petit peu avec lui, c'est un mec adorable.
Ah, oui.
C'est vraiment un mec sympa. Donc, j'aime bien ce mec-là. J'aime bien. Il revient de loin. Il a été connu à partir de l'âge de 40 ans. Je crois que c'est un mec qui a galéré aussi, qui a fait la route en camion, les petites dates à droite.
Ah, il a fait plein de petites dates, c'est vrai, dans les années 70-80. Et puis, il y a un truc qui a vraiment boosté aussi sa carrière, on va dire, par rapport au grand public. C'est les 50 ans de Johnny en 93 au Parc des Princes, où effectivement, il a été l'invité royal de Johnny. Et puis, il m'avait même raconté une anecdote ici, comme quoi, c'était quelques mois après ce fameux 50 ans de Johnny. Il arrive du côté de Clermont-Ferrand, enfin, dans la campagne profonde, en Auvergne. Il tournait et il fait le plein. Et là, le pompiste le reconnaît. Il dit, je vous reconnais, vous avez joué avec Johnny, je vous offre le plein.
C'est sympa.
Incroyable.
Maintenant, ce serait sympa vu le prix.
Bah oui, ça s'est pas passé récemment, effectivement. Et puis Bill Durham, un garçon à qui tu as buffé, je crois.
Ouais. C'était arrivé, c'était aux Francofolies de La Rochelle. À l'époque, avec Borderline, on y descendait souvent parce qu'on avait des potes qui nous logeaient sur place et on arrivait à jouer quasiment tous les soirs. On faisait la manche, en fait, et ça marchait plutôt bien. Il y avait beaucoup de monde. Et après son concert, il est venu prendre un canon à deux terrasses à côté et puis il écoutait ce qu'on faisait et puis il est venu et ça a été magique, quoi.
Et il a sorti un harmo, une guitare
Non, il a dit faites-moi un boogie, là, comme tout à l'heure. Et puis, il a improvisé en anglais pour une fois. Tiens,
en anglais, tiens.
Ouais.
T'as joué avec Bill Durham et il chantait en anglais.
Ouais.
C'est pas souvent.
Il est venu faire le bœuf en anglais. Je pense qu'il a improvisé un peu des paroles. Mais c'était sympa. Et du coup, on s'est retrouvé avec je ne sais plus combien de personnes. C'était une belle expérience.
Et un garçon qui a pris sa retraite l'année dernière, après avoir sorti son Nouvel Horizon volume 2. C'est pas courant qu'un bluesman, qu'un musicien, d'une manière générale, dise « j'arrête tout ». Normalement, on arrête le jour de sa mort à peu près. Hein.
Oh, il a eu des hauts et des bas, Bill Durham. C'est vrai que, tu vois, tu parlais de Johnny. Moi, je me souviens, étant gamin, de l'avoir vu faire le bœuf avec Johnny aussi, Bill Durham. Il a eu sa petite période avec un morceau plutôt reggae, Babylone, là.
Ouais, tu déconnes.
Ouais, qui n'est pas mon morceau préféré, d'ailleurs. Je préfère ce qu'il fait plutôt en blues, quoi. Et il a eu des périodes un peu space. Hein,
Il a fait beaucoup de reggae, effectivement. Ça, c'est une musique qui te branche moins. Enfin, j'ai l'impression, toi, tu es plus axé blues, également rock and roll pur.
Ouais.
Et puis country music aussi. Ça, c'est
c'est avec Danny que j'ai découvert ça. Danny Fisher, connaissais pas bien et il m'a fait découvrir des trucs et j'ai dit tiens oui d'accord parce qu'on connaît pas bien toute cette musique là. C'est vrai que quand on dit country ici on pense aux danseurs etc.
On pense aux line dancers
et finalement c'est aux États-Unis c'est une autre ampleur et puis il y a des artistes notamment de très bons guitaristes. Il y a beaucoup de choses à écouter vraiment très et le mélange blues country voilà l'americana tous ces trucs là j'aime bien ça, ouais.
Il y a un autre artiste qui a partagé la scène avec le garçon dont tu parlais tout à l'heure, Didier Cantegrit, fin des années 90, début 2000, c'était Joey Silver. Tu avais entendu parler de ce garçon?
Oui, en
Normandie.
Ouais.
Et puis, lui aussi fait partie des gens qui ont influencé les musiciens du coin pour jouer aussi la country music. Parce que à chaque fois qu'il y a des musiciens américains qui interviennent dans cette émission, ils sont toujours les premiers à dire « Mais pourquoi vous, en France, vous dites country, rock and roll, blues ?» Ok, les mots existent, ils sont différents, mais pour nous, ça reste de la musique. Et là-bas, ils savent jouer de tout, un petit peu comme toi, j'ai envie de dire, Fred.
Avec le temps, et puis on n'en va pas citer tous les groupes, mais j'en ai eu, peut-être une bonne vingtaine. Après, dans des styles différents, hein, il y a eu, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la chanson française, j'ai fait du banjo New Orleans, je suis bassiste dans Mandarine, bal pour enfants, du bal aussi avec plusieurs groupes, et là, t'apprends à jouer de tout, quoi, hein, passe au doble, valse, tango, et j'en passe. Donc j'ai touché à plein de styles, mais c'est vrai que si je joue de la guitare, c'est parce que j'ai écouté du blues et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. If you're looking for some trouble, I won't lay you
Est-ce que tu continues à faire, bien sûr, Fred, jouer de la musique et jouer d'autres instruments dans des formations différentes, dans des styles différents? Ça n'empêche pas de continuer à jouer ce qu'on aime, et c'est ce que tu prouves notamment à travers cet album. On va parler un petit peu de Devil's Bottle, un groupe que tu as créé avec Thomas Planck à la basse, Francis Marie à la batterie, Paul Héroux qui intervient au clavier sur un titre. C'est un trio au départ,
hein, c'est ça ? Oui, c'est un trio. Alors, l'histoire a commencé, c'est Francis qui m'a appelé pour me proposer de faire des soirées bœuf au Chef Red, un bar à Caen, etc. Et j'ai dit, pourquoi pas, écoute. Donc, sans répéter, sans rien, on s'est retrouvés tous les trois à jouer, voilà. Et puis, au fil des dimanches, on s'est dit, ça marche plutôt pas mal, ce trio, et peut-être qu'on peut en faire un truc, etc. Et là, le fameux confinement nous est tombé dessus. Et c'est Francis qui m'a dit, écoute, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, voilà, on est tous bloqués chez nous, et essaye de composer. Et puis, je te fais une dérogation de travail, comme on est professionnel, et puis tu viens enregistrer à la maison. Donc ça me donnait l'occasion de sortir en plus, c'était pas mal. Et c'est parti de là, ouais, j'ai passé 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois à écrire ce truc-là, quoi.
Alors il y a un 5 titres qui est sorti qui s'appelle Take the Road, dont c'est le premier morceau, Take the Road, un hippie comme on dit, qui a eu les honneurs de Soulbag il n'y a pas très longtemps, sous la plume de Christophe Mourou, qui écrit le blues classique de Devil's Bottles et Bienvenue. 4 compositions, chant, guitare. Alors lui il écrit 4.
Oui, c'est pas une petite erreur, c'est pas très grave.
Chant, guitare, basse, batterie avec piano sur un titre, du chant placé, crédible, avec un bon accent, une guitare qui rythme et qui claque, une solide rythmique, Francis Marie derrière les fûts, des ambiances variées, des stop and go, tout est fait avec bon goût. Voilà ce que dit très brièvement Christophe, qui je peux te dire qu'il en écoute des disques. Hein.
Oui, il en reçoit plein, il en reçoit beaucoup, mais ça fait plaisir, hein. C'est vrai que quand ça arrivait, ça fait plaisir, quoi.
Et donc, te concernant, voilà, du chant placé, crédible, parce qu'en fait, ce que pense Christophe de la plupart des formations françaises, c'est que quand il y a un talon d'Achille, c'est le chant. Et là, quand il écrit que le chant lui plaît bien, enfin, c'est vrai que c'est difficile de trouver un bon chanteur pour un groupe. Ça a été un peu la bonne aubaine aussi pour Francis, j'ai envie de dire, même si le domaine existe toujours.
Oui, bien sûr. Non, mais on s'est bien entendu. Et puis Francis, il a d'autres cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il a un studio chez lui. Mm-hmm. Il fait des prises de son vintage plutôt sympa. Il a du matériel un peu vintage et il sait plutôt bien s'en servir. Et on a pu prendre notre temps. Et ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pris notre temps pour enregistrer. Et au final, Paul Héroux nous a filé un bon coup de main pour le mix et le mastering. Il est assez doué aussi, lui, et le résultat est plutôt pas mal, quoi. Donc je me suis fait aussi aider par Jean-Pierre, parce qu'il a une licence d'anglais. Donc il m'a aussi corrigé mes petites bêtises. C'est pas évident, j'ai tout écrit en français et j'ai tout retraduit après.
Ouais, tu t'es débrouillé pour que ça sonne de la même manière, les pieds, tout ça, ça tombe.
Alors
juste...
ça sonnait bien en français. et une fois passé en anglais, ça marchait plus, donc il a fallu retrouver des mots, en enlever, en rajouter. Enfin, c'était un petit peu long. Et tu vois, peut-être un regret de ne pas avoir mis un morceau en français quand même.
Alors qu'il y a au moins un morceau en français dans votre répertoire maintenant, c'est le cas. Il n'existe pas encore ?
Non, il n'existe pas encore, mais j'aurais dû en laisser un. En laisser un, voilà. Peut-être pas tout en anglais, parce que Francis, pour lui, le blues, c'est chant anglais, c'est comme ça.
Oui, c'est l'école de toujours, hein, Francis.
Oui. Ah bah oui, c'est l'ancien, comme voilà.
Voilà, les Léo Domaine qui existent toujours, qui se sont reformés il y a quelques années déjà. Enregistré au studio B sur M, donc Bernières-sur-Mer.
Exactement. Hein, ça se cache. Voilà.
On est d'accord. Avec Francis, tu l'as rencontré quand et comment, Francis Marie ?
Francis, on se croise depuis 25-30 ans, quoi, parce qu'il était partout où il y avait du blues, quoi. Et voilà, c'est un amateur de musique bien éclairé, le roi du shuffle, quoi, de la région. Hein.
Ouais. Tu l'as connu à l'époque où il était avec son frère Bernard à la basse.
Avec Bernard, avec qui j'ai joué de temps en temps, bien sûr. Ouais.
La rythmique de Chicago, du côté des Miéville.
Il y a eu ça,
Et donc, il fait partie des musiciens que tu continues à côtoyer. Comment est-ce que ça se passe, ces soirées au Chef Red ? C'est le dimanche soir.
C'est le dimanche soir.
Il faut s'inscrire, il faut arriver juste
non,
en...
Non, non, non. C'est,
comment tu fais ?
Ça commence à 21h. On fait un premier set de chauffe, quoi, avec l'équipe, là. Et puis après, y a des équipes qui se forment. Il y a pas mal de petits jeunes qui arrivent et c'est plutôt sympa, ça joue pas mal. Ils arrivent basse, batterie, guitare et puis ils font 2 morceaux chacun. Et puis des fois, je reprends la guitare pour un titre ou deux, voilà. Il y a des cuivres, violons, ukulélé, c'est plutôt sympa. Hein.
C'est bon enfant et dans l'ambiance comme toujours, quand il y a un bœuf, il y a le partage avant tout.
C'est
l'amour de la musique.
C'est ça, bien sûr. Ouais.
Le Chef Red à Caen, voilà, qui accueille le trio Devil's Bottle. On va écouter un nouveau titre.
I walk the streets, mousquetaire on my back, red at a fight, and the big blues blur. It's not easy, it's not free.
Devil's Bottle, ça fait partie de cet album Take the Road. Pourquoi cette pochette? Qui a décidé de cette photo avec, on va la décrire quand même, parce qu'on a la radio, une belle décapotable américaine qui fonce vers l'horizon et on dirait qu'il y a du soleil. Au fond, on sort du tunnel, c'est la fin de Covid, c'est ça, hein,
Oui, il y a ça, puis ça correspond bien au premier titre, Take the Road, c'est prendre la route, quoi, c'est tailler la route. Et donc c'est vrai que ça représente bien... On dirait l'Arizona, et puis on taille la route jusqu'à je ne sais pas où. Voilà, sur les routes toutes droites du désert américain. Ouais.
Quels sont les musiciens auxquels tu penses quand tu composes? Est-ce que tu penses d'abord aux paroles? Est-ce que tu penses d'abord à la musique? Et quels sont les musiciens qui t'influencent dans ton processus de composition?
Ah bah, c'était la première fois. Alors, j'ai déjà composé des petits trucs qui n'ont pas été enregistrés forcément. Mais là, c'était la première fois où papier, stylo, et puis tiens, faut que je raconte une histoire, quoi. Et alors bon, Francis, t'ennuies pas, regarde les paroles existantes. C'est vrai qu'il y a des blues qui, au niveau paroles, c'est très léger, on va dire. Je voulais aller plus loin que ça, donc je voulais partir. C'est que des petits bouts d'histoire, en fait. Donc, page blanche, en français. J'avais déjà des tourneries de guitare, et puis je faisais sonner des trucs, des mélodies à la voix, et puis il faut essayer que tout s'emboîte. J'ai pris du temps.
Hein. Est-ce qu'il y a une base autobiographique dans tes compositions, au niveau des paroles?
Non, non, non. Non, non, non. Oui, c'est des tranches de vie, mais pas forcément qui m'appartiennent. Quoi. C'est quand même le blues, quoi. Donc voilà, il y a toujours une histoire de fille là-dedans. Il y a toujours une histoire de bagarre dans un bar. Il y a prendre la route parce que on peut plus vivre à cet endroit. Enfin bon, c'est des thèmes de blues. Hein, voilà.
Ouais. Des thèmes qu'on peut retrouver dans un film qui s'appelle Roadhouse avec un certain Patrick Swayze, dans lequel intervient un musicien que tu aimes bien qui s'appelle Jeff Healey.
Ah oui, Jeff. d'affilée, ouais. Hein,
un film qui est sorti il y a une bonne trentaine d'années, et puis pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais un truc qu'on a plaisir à revoir.
Oui, c'était les films de l'époque, quoi, voilà.
Et Jeff Hillet, tu l'as découvert à l'occasion de ce film-là, ou par la suite
Non, j'ai dû l'écouter avant, j'ai vu le film après, et j'ai même été le voir à Paris, c'était assez grandiose. Donc cette façon de jouer un petit peu atypique, et la guitare à plat, il se sert de tous les doigts, ouais. Le pouce, et c'était assez incroyable, il a un son terrible, ça lui permet d'avoir un accès aux aigus, et il fait des tirées de notes incroyables, il a fait quelques titres, quelques reprises que je trouve vraiment, vraiment terribles.
Fred, tu as essayé de jouer à la Jeff Hillet, cette façon-là
non.
Sur les...
non, non, non. Non, j'ai déjà du mal normalement, donc
oh, attends.
Comme ça, non. Non.
Jeff Hillet dans la radio.
I'm going to do another tune from the movie. This will be the first track to get out there and all that sort of thing on the movie. And I think you can tell why we chose this. The film was called Roadhouse. Let them have it, Joe. Let them have it. Go ahead.
Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui a résonné en toi quand tu l'as entendu ?
Alors, le premier truc que j'ai vu, que j'ai récupéré, c'était une cassette VHS, le live au El Mocambo. Mmh. Et j'en avais presque les larmes aux yeux, quoi. Ça faisait partie de lui, la guitare, c'était vivant. En plus, il était bien entouré, il y a un super bassiste. Et un batteur un peu atypique, pareil, qui a une façon de jouer particulière. Mais alors, ce trio-là, il y avait un son...
Tommy Shannon et Chris Layton, ouais.
Exactement, Double Trouble.
Voilà.
Et j'ai dit, mais c'est incroyable ce mec-là, quoi. D'où il sort, c'est quoi ? Et à partir de là, j'ai regardé beaucoup plus de choses, acheté ses albums et tout ça, quoi.
Le live va être Mocambo. Tiens, on va faire une petite dédicace à mon fils OL, qui est né en 1994 et qui a découvert ça bien plus tard, mais ça lui a mis le pied à l'étrier pour jouer de la musique. Il est batteur,
ouais.
Hein.
Il est batteur, ouais.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the El Mocambo. Boogie time tonight, please welcome from Austin, Texas, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble.
Stevie Ray Vaughan, qui a joué également avec Albert King, oui. Ça fait partie des morceaux, des albums que tu as apportés ici à Radio 666. Albert et Stevie à la BBC, c'est sorti bien plus tard, mais ça avait été enregistré en 83.
Oui, oui.
Et alors, pourquoi ce truc-là ?
Alors, il faut savoir que Albert King, c'était l'idole de Stevie Ray.
Oui.
Voilà. Et quand on sait ça, on s'aperçoit que dans le jeu de Stevie Ray, il y a quand même pas mal d'Albert King, de temps en temps. On comprend pas mal de choses. Et puis, il y a une vidéo aussi qui existe de ce truc-là.
Bien sûr.
Et Stevie Ray, il est comme un gamin devant Albert King, quoi. Et il y a quelques morceaux vraiment terribles, quoi. Dont Born Under the Bad Sign, c'est un de mes morceaux préférés, ouais.
Ouais, on va écouter ça.
Et cette version-là est incroyable.
One, two. Born on a bad sign. Been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I would now no luck at all.
Albert King et Stevie Ray Vaughan, Born Under a Bad Sign. On est en 1983 et oui, tu l'as dit Fred, ça fait partie des influences de beaucoup, hein, Stevie, et puis à travers ça, tous les bluesmen, les pionniers comme Albert King, les pionniers de la guitare électrique, hein. On se souvient peut-être des enregistrements d'Albert King aux côtés de Otis Rush dans les années 56-58 chez Cover Records, et puis toute la carrière qui s'en est suivie. Albert King, tu l'as vu sur scène, je crois.
Je l'ai vu sur scène, ouais, à Paris.
Tu devais être tout
mignon. On était avec Borderline, ouais. Donc j'avais la petite vingtaine, ouais. Voilà. Ouais.
Et c'était, est-ce qu'on était peut-être ensemble parce qu'il n'est pas passé 50 fois. C'était à Boulogne-Billancourt en 1989.
Bah je crois bien que c'est ça.
On était au même concert.
Je crois bien que c'est ça. Ouais.
Incroyable. Et alors je me souviens de ce festival. Enfin, il y avait plusieurs soirées. Il y avait les Blues Brothers. Il y avait également Joey Louis Walker, je crois. Enfin, pas le même soir, mais il y avait eu plusieurs.
Il y a eu plusieurs trucs comme ça. Ouais. Ils avaient fait ça sur Paris une année ou deux années de suite, je crois. Ils avaient fait venir gros festival avec que les bluesmen de renom international. C'était super.
Ouais. Albert King. Et puis un autre artiste qui t'a bien branché, mais je pense qu'il y a déjà fort nombreuses années, il a enregistré entre autres chez Alligator Records, mais il avait commencé bien avant, c'est monsieur Johnny Winter.
Ouais, Johnny Winter, alors un jeu un peu à part, mais moi c'est surtout le chant de ce mec-là. Il y a une façon de chanter assez incroyable et une énergie, il y a vraiment des morceaux que j'adore, quoi. Donc je l'ai vu quand il était passé à Caen, juste un peu avant sa mort.
Bon, 2011.
Ouais, on sentait que c'était un peu la fin.
Avec des musiciens cannés en première partie, ouais. Dont Didier.
Ouais, qui était fan absolu.
Ah oui.
Ouais, donc c'était un beau clin d'œil, quoi. C'était sympa.
Et là, Johnny Winter, tu as choisi un extrait de l'album Third Degree.
Oui, dans cet album-là, bon, tout est bien. Hein. Écoute, je te laisserai le soin de choisir.
Ah, c'est vrai qu'il avait fait Tin Pan Alley, qu'a repris aussi Stevie Ray Vaughan.
Exactement.
Ouais, ouais. Incroyable, ouais.
Tin Pan Alley is a dirty place. If you are
Un autre artiste qui t'influence et qui te plaît beaucoup et qui s'est produit lors de la première nuit du blues à Caen en 94, c'est Monsieur Lucky Peterson qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps.
Ouais.
Alors Lucky, lui aussi, quelqu'un qui a baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance, il a sorti son premier 45 tours à l'âge de 5 ans.
Ouais, c'était incroyable.
Il était au chant et au piano à l'époque, il s'est mis à la guitare très très vite, son père tenait un club de blues, enfin ouais. Le type, il ne pouvait pas être musicien classique quoi.
Ah bah oui, c'était...
Tu l'as découvert quand, Lucky Peterson?
À la nuit du blues,
ouais.
Et c'était vraiment un super concert. Puis un showman, tu sais, le tour des gradins, la guitare non branchée, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute, et c'était des moments magiques, quoi. Je l'ai revu quelques années après, il avait dû prendre 40 ou 50 kilos, et c'était à Mésidon, tu sais, à la loco. C'était un super concert aussi, et il avait fait plus de claviers, là. Bon, moi j'aime bien son jeu de guitare quand même.
Ouais, c'est vrai qu'en clavier, il a même fait un album entier dédié à Jimmy Smith, il me semble, où il est très très jazz dans son jeu.
Ouais.
Un garçon capable de prouesse, enfin voilà, on le regrette tous bien sûr, Lucky Peterson. Cette soirée de 1994 avait également regroupé Thierry Anctil en première partie,
oui.
Puis Jimmy Johnson, et il y avait eu un buff mémorable
à la fin.
C'était juste incroyable.
C'était super ça. Ouais.
Lucky Peterson, on va écouter un extrait de cet album qui a déjà quelques années, qui s'appelait Beyond Cool. Tu as choisi Compare to What, tu crois?
Exact, ouais.
On écoute
super
ça.
Ce morceau. Trying to make it real compared to what? Lucky Peterson avec Compare to What, voilà, on a fait un tour d'horizon un petit peu des gens qui t'ont influencé, qui t'ont fait rêver. Tous des guitaristes, pas forcément guitare héros comme on le dit parfois, parce que Albert King, voilà, Albert King, il faisait trois solos, tu prends ces trois solos de guitare et ça fait toute la discographie d'Albert King. Bah oui, c'est
le
ça.
Type hyper, c'est hyper simple, mais en même temps hyper compliqué parce que gaucher.
Oui.
T'as essayé de jouer gaucher ou
non? Oui, j'en connais un, moi, qui joue comme ça. Il n'est pas loin de moi.
et donc, alors, tu joues droitier. Donc, tu sais lire, évidemment, les tablatures.
Oui.
Il n'y a aucun souci. C'est une démarche que tu as de continuer à apprendre en lisant ou plutôt en écoutant?
Ah non, en écoutant.
Ouais,
en écoutant
surtout en écoutant.
Ah oui.
C'est une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure pour tes débuts. Est-ce que tu faisais partie des gens qui, comme Thierry Anctil, par exemple, se remettaient 18 fois sur le 33 tours, le diamant, pour écouter le solo de T-Bone Walker ou de
Otis Rush? Oui, je le fais encore.
Ouais,
je le fais encore. Maintenant, c'est plus facile. On peut faire des boucles avec l'ordinateur, mais pour comprendre, pas forcément des traits de guitare très compliqués, mais des notes bien spécifiques, etc., des sons. C'est l'avantage de ces grands guitaristes-là. Baby King, j'entends une note, je sais que c'est lui tout de suite. Quoi. Voilà.
Pourtant, il a été imité, mais jamais égalé.
Non, mais tous ces guitaristes-là... Alors, il y en a quelques-uns qui arrivent, je ne sais pas si tu connais ce petit jeune-là, Kingfish.
Oui, Christian Kingfish Ingram, bien sûr. Ah oui.
Il fait mal, lui.
La nouvelle génération. Et il est en 98, c'est juste incroyable. Il vient d'avoir un Grammy Awards.
C'est assez incroyable.
Ouais.
Et il vient pour la première fois en France à Cognac, au festival, je crois.
C'est ça, Cognac, il fait Cahors, il fait Vienne, enfin il va faire plein de festivals
cet été. Pour la première fois.
C'est vrai que c'est incroyable. On l'écoute de temps à autre dans l'émission, pas assez souvent à mon goût.
The sound oozing from the ground, and it cuts right through. 6-6-6-2.
On va écouter un nouvel extrait de ce EP qui s'appelle Take the Road par Devil's Bottle. Et auparavant, te demander encore quelque chose, Fred. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille du diable, finalement? Devil's Bottle, c'est quoi? C'est un élixir qu'on fabrique uniquement au chef Fred?
Oui, c'est un peu ça. Bon, le diable et le blues, déjà, ça existe depuis longtemps, hein, à l'époque de Robert Johnson, quoi, qui a vendu son âme au diable. Voilà. Et puis la bouteille, bon, ben, la bouteille, chacun interprète ça comme il veut, mais bon,
un groupe qui s'est formé il y a peu, mais qui a déjà de la bouteille, on va dire. C'est
bah
ça.
Ouais, ouais, ouais. Le petit jeune, c'est le bassiste qui vient pas du blues là, mais Thomas Planck, c'est plutôt une pointure dans la région. Mmh. Et puis du coup, il apporte sa patte un petit peu. Il est plutôt funky lui, voilà. Il aime bien tout ce qui est groove, hein, tout. Et donc avec Francis, on l'a formé un petit peu à tout ça, walking et compagnie. Et du coup, il fait un petit mélange qui est très 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 sympa.
Est-ce que c'est le Thomas Planck qui a fait partie du groupe Spoonful avec Igor Pichon?
Ah ouais, 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 ouais.
Voilà,
ouais, ouais.
Ah, pour situer.
Ah bah oui, il a fait plein de trucs, ouais.
Là,
ouais.
On a un bassiste de Spoonful, on a un batteur de Domaine, et puis on a un guitariste de Didier Cangri, entre autres, tout
oui,
ça,
entre
bien
autres,
sûr.
Ouais.
Et voilà, donc tout ça, ça nous fait une mixture qui s'appelle Devil's Bottle. On va écouter un nouvel extrait.
Quickly, yeah.
Voilà, c'était Devil's Bottle avec Fred Mahé, guitare-chant, Thomas Planck, basse, Francis Marie à la batterie. Au clavier, Paul Héroux intervient sur le titre I Don't Know. Est-ce qu'on a fait le tour, Fred? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander?
Je pense que oui. Je peux faire de la pub pour l'album.
Ah,
tu
allons-y,
vois,
allons-y.
Si tu as vu, il y a un petit QR code.
Oui.
Voilà, c'est à la mode. Hein. Et donc, on peut aller voir directement notre page Facebook et puis on peut venir discuter avec nous très facilement. Et s'ils veulent acheter des albums, je peux les envoyer sans problème.
Très bien. Voilà. Et donc, ça se passe sur la toile, mais on peut également venir vous voir le dimanche soir régulièrement,
oui,
au Chef
sûr.
Fred. Tu,
ouais,
y es,
ouais.
Tu y es chaque dimanche?
Quasiment.
Quasiment.
Ouais.
Bon.
Sauf quand j'ai d'autres dates, d'autres trucs, mais
bien sûr.
J'y suis quasiment tout le temps. Ouais.
Quels sont les autres projets qui t'occupent en ce moment, Fred, pour 2022? En ce moment, tu t'occupes de Devil's Bottle, mais tu as,
oui,
d'autres cordes à ton arc,
disais-tu? Il y a Sounds of Anarchy, où il y a un album qui va sortir très prochainement. J'ai un petit groupe country bluegrass acoustique, deux guitares, deux voix, contrebasse, violon et batterie légère, avec que des pointures de la région aussi. Hein. Western Shadow.
Avec quelques musiciens de la région, là encore?
Ah oui, il y a Jacques Jourdan à la contrebasse, il y a Benji André à la batterie percussion, Manuel Decoq au violon et Michael Patry à la guitare acoustique et voix. Et moi, guitare acoustique et voix. On a gardé ce côté acoustique là pour changer.
Très bien. Voilà, donc trois formations, rock, blues et country. Voilà, la boucle est bouclée.
Fred. Oui, on reste dans ce que j'aime bien. Ouais, ouais.
Merci pour tout ça, Fred.
Je t'en prie.
On va se quitter avec un dernier extrait de cet album Devil's Bottle. Merci, Fred. Merci beaucoup.
Merci.
À
salut.
Bientôt. I don't know what to do. C'est la fin de ce 1148e Sweet Home Chicago avec Fred Mahé et le groupe Devil's Bottle. On a écouté Johnny Hooker, Bill Durham, également Jeff Healey, Stevie Ray Vaughan, Albert King avec Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter, Lucky Peterson, Kriston, Kingfish, Ingram et bien sûr l'intégralité de l'album de Devil's Bottle qui s'appelle Take the Road.
Back to that same old place, Sweet Home Chicago.
On se retrouve la semaine prochaine à partir de 13h. Salut, bye bye.